Inside Red Bull Bora Hansgrohe. Le podcast OVB Online sur le Tour de France. Pendant trois semaines, on accompagne avec le manager de l'équipe, Ralf Denk, la plus grande et la plus performante des équipes de cyclisme allemande sur la grande boucle. Vous avez des questions pour Ralf Denk? Envoyez-les à tobias.ruf@ovbmedia.de. Et maintenant, place à ce nouvel épisode. Tadej Pogacar s'impose en ce jour de fête nationale à Les Lilas et creuse l'écart au classement général. Remco Evenepoel prend la deuxième place et monte sur la troisième marche du général. Florian Lipovic finit quatrième aujourd'hui et se retrouve désormais sixième au général. On a énormément de choses à débriefer. On y va tout de suite avec le manager de l'équipe Red Bull, Bora Hansgrohe. Salut Ralf Denk.
Salut et bonsoir à Rosenheim.
Oui, il y a de quoi faire. Commençons par les faits. Deuxième et quatrième place aujourd'hui, troisième et sixième au général. Pleinement satisfait ou il y a des bémols aujourd'hui?
Si je parle de nos gars, donc de Remco et de Florian, et même de toute l'équipe, Jai Hindley est resté longtemps aussi, on est pleinement satisfait. Une bonne journée pour nous.
Alors, entrons dans le vif de la course. Donc, sur la fin, il s'est passé pas mal de choses. C'était prévisible. Isaac Del Toro, qui était alors troisième au général, a visiblement eu du mal. Ça joue le podium. Devant, Remco Evenepoel a pris l'initiative avant de connaître des difficultés. Est-ce qu'il en a trop fait à ce moment-là?
Oui, il faut peut-être commencer un peu plus tôt, à 25 ou 30 kilomètres de l'arrivée. Richard Carapaz a été phénoménal. Il voulait gagner l'étape en force. UAE a pris le contrôle, puis un peu plus tard, Visma, donc Vingegaard comme Pogacar, voulaient aussi gagner l'étape, pas seulement Richard Carapaz. Pogacar attaque. Et là, le rythme de base était déjà extrêmement élevé. Enfin, il n'y avait plus qu'un tout petit groupe de plus ou moins 10 coureurs. Et Pogacar, pour la première fois, je dirais qu'il n'est pas parti avec autant de facilité que d'habitude. C'est mon impression. Le groupe derrière, avec Vingegaard, Florian Lipovic, Remco Evenepoel, deux gars de Lidl Trek et Paul Sexa, c'était là aussi. À mon avis, si ce groupe collabore bien, ils reprennent Pogacar aujourd'hui. Remco a énormément donné dans cette phase de la course et il a failli le payer cher car il a eu du mal, comme tu dis, dans la dernière ascension à suivre le groupe de poursuite. Et oui, il a peut-être puisé un peu trop loin, mais d'un autre côté, à mon avis aussi, Lidl Trek aurait pu en faire plus. Ils étaient deux dans le groupe. Ils avaient leur coureur Skelmose Jensen, un coureur qui n'a probablement plus aucune chance de podium. Il aurait pu, je trouve, au moins participer un peu au travail de poursuite. Remco a encore été celui qui a le plus roulé, ce qui est tout à son honneur, car il ne se contentait pas de la deuxième place. Il voulait absolument gagner l'étape. Il a beaucoup donné, a eu un coup de mou, mais est revenu de façon phénoménale pour finalement faire deuxième.
Est-ce qu'à ce moment-là, quand Evenepoel a été distancé, il y a eu une consigne pour Florian Lipovic de ne pas rouler devant, de plutôt temporiser? C'est l'impression qu'on a eue par moment pour éviter que l'écart sur Evenepoel ne grandisse trop. Il y a eu une consigne parce que cette stratégie de double leader, elle laisse place aux spéculations.
Oui, mais dans cette phase, de toute façon, le groupe était morcelé, il n'y avait pas de voiture d'assistance et même les images télé avaient 10 secondes de retard. Non, c'était selon la situation. Florian était aussi à la limite et d'abord, c'était aux autres de creuser l'écart sur Remco. Ils n'y sont pas parvenus et Remco a récupéré assez vite. Il est revenu et a encore fait un final phénoménal. Comme je l'ai dit, les deux gars ont super bien géré devant et il n'y avait pas de raison d'en sacrifier un, disons, pour le sortir du général ou de l'attendre. Franchement, les deux ont assuré. Chapeau.
Del Toro, c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce pour moi en ce moment, parce que si Lipovitz avait insisté et tout le groupe, bien sûr, on aurait pu creuser l'écart sur Del Toro, mais est-ce que ces quelques secondes qu'il y aurait probablement eu au bout valaient le coup si ça éliminait aussi Evenepoel, comme tu viens de le sous-entendre?
C'était justement pour ça, au pied de la dernière bosse, que Remco tenait tant à maintenir un rythme élevé, d'une part pour boucher le trou sur Pogacar, mais aussi pour empêcher Del Toro de revenir. Mais un groupe ne fonctionne que si tout le monde fait sa part. Et les gars de Lidl n'ont pas fait grand-chose. Paul Seyssas était seul, je comprends qu'il n'en fasse pas trop. Mais le groupe n'a pas collaboré, tout comme lors de la sixième étape après le Tourmalet. Et c'est pour ça que Remco, tellement il voulait la gagne aujourd'hui, a fait le plus gros du boulot.
Donc, ce n'est pas vraiment votre rôle, si je comprends bien, de vous dire, bon, on va se pénaliser nous-mêmes, les autres ne font rien, et c'est nous qui devrions en faire les frais. Tactiquement, ça aurait été maladroit à ce moment-là. C'est comme ça que je le traduis.
Ouais, Remco a failli se saborder tout seul, ouais, tellement il avait envie de gagner aujourd'hui. Et franchement, chapeau, enfin, un grand bravo de ne pas s'être contenté de la deuxième place, contrairement à d'autres dans le groupe.
Un grand bravo à Florian Lipovitz. Il faut bien que les gens se rendent compte, c'est seulement son deuxième Tour de France. Je trouve qu'il gère ça d'une manière tellement calme et posée. Il est tellement régulier. J'ai jamais l'impression que, à aujourd'hui, dans le groupe, il pourrait lui arriver un truc. Et après la course, il dit qu'il est super content, même que Remco soit revenu pour faire deux. Lui, il fait 4. Son coéquipier prend les secondes de bonification, pas lui, mais il est quand même super content. Il a l'air calme, hyper serein. Il maîtrise la situation avec un contrôle étonnant pour son deuxième Tour de France, alors qu'il ne vient pas du cyclisme. Je suis vraiment impressionné. Toi, tu en penses quoi? Évidemment, tu ne peux pas être neutre vu tes fonctions. Mais c'est quand même bluffant.
C'est super ce qu'il fait, sa façon de gérer les médias maintenant, mais aussi la force pure et le talent qu'il y a derrière. Et je l'ai dit au début, je crois que c'était avant la première étape, quand on parlait du parcours en général, j'avais dit qu'on parlerait en seconde dans la première moitié du tour et en minute dans la seconde moitié, surtout le dernier week-end. Et je maintiens mon opinion, ce week-end final, et je connais tous les cols de ce week-end-là, sera tellement dur qu'on parlera vraiment en minutes. On a bien vu aujourd'hui que certains coincent, par exemple Isaac Del Toro ou même Jonas Vingegaard, qui avait l'air tout sauf frais dans le final. Et le week-end final du Tour de France, après le chrono, ça va être d'une dureté absolue. Et je le sens très très bien pour Florian sur cette période.
Oui, alors restons sur Vingegaard. Il a gagné ici il y a 3 ans et aujourd'hui, il prend plus de 10 secondes par les autres prétendants au podium. Je parle même plus de Pogacar quand je regarde Vingegaard. Donc, la deuxième place, même après ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est, je pense, un objectif tout à fait jouable.
Oui, tout est encore possible entre, disons, la septième ou huitième place et la deuxième place. Tout est très serré. Et comme je l'ai dit, on va parler en minutes. Et là, on est plutôt bien installé aux troisième et sixième places. Et on doit faire notre boulot. On ne doit pas tomber. Aujourd'hui, il y a encore eu de grosses chutes dans la descente de l'avant-dernier col. Même Tom Pidcock qui passe pour un spécialiste de la descente, s'est retrouvé par terre. Et c'est le genre de truc qu'on doit absolument éviter. On doit rester concentré. Mais sinon, je suis vraiment très, très content de la façon dont les gars se comportent et de notre position de départ.
Exactement, parlons un peu de ce Paul Seixas, 19 ans, premier Tour de France, troisième aujourd'hui, cinquième au général. Il a même tenté un truc à un moment. C'était pas hyper tranchant, je trouve. Il se retournait tout le temps. Pour un gamin de 19 ans, c'est tout à fait légitime. Mais il montre déjà pourquoi on le présente comme le futur crack qu'il est. Franchement, je suis bluffé par sa performance.
C'est une performance absolument magnifique et on peut déjà le féliciter parce qu'on en est déjà à 10 jours de course. Il n'a jamais fait ça de sa vie. Il n'a jamais couru de grand tour, ni le Giro, ni le Tour de France, ni la Vuelta. C'est très, très couillu de la part de son équipe Decathlon d'en faire leur leader sur le Tour de France à seulement 19 ans. Et les avis sont partagés là-dessus. Y a des gens qui disent que c'est tout à fait ce qu'il faut faire et d'autres qui pensent qu'ils sont en train de le cramer complètement. Équipe française, son contrat se termine l'année prochaine. Il a 19 ans, c'est un super talent. Même le président français Macron s'est mêlé des négociations pour son contrat. Il y a une offre sur la table d'une équipe de deuxième division à 13 millions par an. À 19 ans, il faut digérer tout ça, tu vois. Il y a 2 ans, ce gamin ne gagnait pas un rond avec le vélo. Et là, il a de loin, de très loin, la meilleure offre sur la table, bien au-dessus de Pogacar. C'est quand même complètement fou ce qui lui tombe dessus. Je ne lui souhaite pas de mal, mais ça fait vraiment énormément de choses à intégrer d'un coup. Et j'espère qu'il va s'en sortir.
Tu parles de ces deux visions. Ceux qui d'un côté disent que c'est parfait et ceux qui de l'autre disent qu'on le crame. Toi, tu te situes où ?
Donc, on a un exemple très similaire chez nous. On a Lorenzo Fin. Lorenzo Fin a aussi 19 ans. Il courait encore tous les deux dans la catégorie Espoir l'an dernier. Et tous les deux étaient tout devant sur le Tour de l'Avenir, qui est le Tour de France des moins de 23 ans. Paul Sechas l'a gagné, Lorenzo Fin a fait quatrième. Lorenzo Fin vient de gagner le Giro d'Italia chez les Espoirs. Donc, nous, on fait grandir Lorenzo Fin très, très tranquillement. On a délibérément refusé de le lancer trop vite chez les pros. Il court encore en espoir cette année et ne passera pro chez nous que l'année prochaine. Et c'est une autre philosophie. Dans 3 ou 4 ans, on verra quelle était la meilleure approche, la meilleure stratégie. Je pense que la nôtre est plus durable, mais il y a toujours des miracles, même dans le vélo.
Mais la situation est différente pour Red Bull Bora Hansgrohe par rapport à l'équipe Decathlon.
Dans ce cas-là, oui, parce que Lorenzo Fin est italien. Nous, on est une équipe allemande. Ça veut dire qu'il n'est pas automatiquement sous le feu des projecteurs comme un Paul Sechas dans une équipe française. En tant que Français.
Et vous en avez deux, vous en avez deux là qui, comme on le dit, et on le voit bien maintenant, visent le classement général. Donc, surtout pour une plus petite équipe comme Decathlon, c'est évidemment une opportunité. Tu dis toujours, c'est là qu'il faut attirer l'attention, c'est là qu'il y a les sponsors, le public. Donc, du point de vue de l'équipe, je le comprends mieux pour eux que je ne l'aurais compris pour vous.
Oui, je dois te corriger pour une fois aujourd'hui. Decathlon n'est pas une petite équipe. C'est une équipe très solide financièrement qui prend le sport très, très au sérieux. Et Decathlon, avec tout ce qu'ils font aussi en développement interne, que ce soit le matos, les vélos, les vêtements, il faut les prendre au sérieux. On devrait les prendre au sérieux. Ils prennent aussi le cyclisme très, très au sérieux.
D'accord.
Mais bien sûr, c'est une équipe française, il est français, mais ils ont déjà gagné une étape, l'étape de sprint à Pau, si on s'en souvient, et ils ont déjà une victoire d'étape à leur actif, donc ils ont déjà un peu assuré l'essentiel. Peut-être qu'ils n'auraient même pas eu besoin de Sechas, mais comme je l'ai dit, ce sont beaucoup de discussions, beaucoup de spéculations. Au final, on devra en reparler dans 2 ou 3 ans pour voir quelle était la bonne voie, Paul Sechas ou Lorenzo Fin.
D'accord. Je le note sur ma liste pour Inside Red Bull Bora Hansgrohe dans 3 ans. Bon, Parlons rapidement de Maxime Van Gils. Il a encore dû lâcher prise tôt aujourd'hui. À la base, il était prévu comme quelqu'un qui, un peu comme Jai Hindley, reste présent assez longtemps sur ce genre d'étape. Il ne se sent pas bien, la forme n'est pas là. Qu'est-ce que tu sais sur la raison pour laquelle ça n'a pas marché aujourd'hui?
Il y a deux choses. On parle de détails ici, mais c'est sûr, le niveau sur le Tour de France est tellement élevé. Premièrement, il s'est très, très gravement blessé en février lors d'une course en Andalousie. Il s'est fracturé le bassin et a eu une longue rééducation derrière lui. Il est ensuite revenu plutôt bien et vite sur le Dauphiné. Il a même gagné une étape sur le critérium du Dauphiné et a aussi largement contribué au podium à la deuxième place de Luke Tagliatelle. Mon avis, je ne suis pas un scientifique du sport, c'est que il lui manque peut-être un peu de foncier maintenant parce qu'il n'a pas roulé du tout pendant plusieurs semaines, oui. Et il lui manque peut-être un peu de foncier, ce qui fait qu'il n'est peut-être pas aussi fort qu'on l'espérait. Et ce qui s'ajoute à ça, je le sais parce que je discute personnellement avec lui, il n'aime pas trop la chaleur. Oui, s'il y avait 10 degrés de moins, il lèverait la main en l'air et dirait: je préfère largement cette température. Il est belge, c'est peut-être un peu différent des coureurs espagnols ou italiens qui sont plutôt résistants à la chaleur. De ce fait, ce sont deux petits facteurs et du coup, tu n'es peut-être plus avec les 30 derniers dans la montagne, mais seulement avec les 50 ou 60 derniers. On parle ici de la plus grande course cycliste du monde et de détails, mais si tout n'est pas à 100%, tu n'as aucune chance d'être avec les 20 ou 30 derniers dans la montagne.
Et comme tu le dis si bien, ce n'est pas un self-service, ce Tour de France. À propos de self-service, je pense que certaines équipes, tu nous as d'ailleurs donné, avant la journée de repos dimanche, de superbes aperçus sur la question des hôtels et de ce qui est fait pour que les équipes et les coureurs récupèrent bien. Alors certaines équipes auraient sûrement voulu autre chose, l'hôtel de Pogacar sans climatisation, l'équipe Uno X Mobility, Tobias Halland Johannessen a posté une vidéo, on y voit de la saleté dans la chambre, on y voit des toiles d'araignée dans la chambre, pas de clim, ils sont sortis et ont dormi sur le balcon. Alors on n'est pas sur un paquebot de luxe, mais c'est quand même indigne d'un Tour de France, je trouve.
On peut le voir comme ça. C'est aussi mon avis au final, mais il faut aussi regarder la situation globale. On a eu de magnifiques images aujourd'hui dans le Massif central. C'était vraiment spectaculaire. Et à un moment, en regardant ça aujourd'hui à la télé, je me suis dit: ah, peut-être que j'irai là-bas un jour pour des vacances à vélo. Bon, on veut ces images dans le cyclisme. Je pense que ces images sont aussi importantes pour le cyclisme. Quiconque est déjà allé dans le Massif central sait que c'est une région complètement sinistrée sur le plan structurel. Et dans une région sinistrée, il n'y a pas énormément d'hôtels. En plus, le Tour de France devient de plus en plus grand et les équipes aussi deviennent de plus en plus grandes. Et je sais de la part de l'organisateur qu'ils ont besoin de 3000 lits par jour. Et c'est un chiffre énorme. Il y a peut-être ça dans les grandes agglomérations comme Paris, Lyon et Marseille. Mais il n'y a pas ça dans le Massif central. Et c'est pour ça que les organisateurs prennent souvent ce qu'il y a sur le marché. Et le fait qu'on ne puisse pas contrôler chaque hôtel, c'est difficile. Mais je dirais les choses comme ça. Je n'ai encore jamais vu un mauvais hôtel pour les officiels, mais j'ai déjà vu beaucoup de mauvais hôtels pour les équipes. Et peut-être qu'il faudrait faire preuve de bon sens pour que les protagonistes, ceux qui font le spectacle sur la route, est les bons hôtels et pas les officiels. J'ai vécu la même chose cette année sur le Giro d'Italia. On était souvent dans des hôtels affreux, parfois juste un 2 étoiles au niveau italien, et puis tu vas te dégourdir les jambes le soir dans le village, et là tu vois les officiels garés devant des hôtels 4 étoiles. Donc là, je trouve qu'on devrait peut-être privilégier les coureurs. Mais ce n'est pas simple quand on regarde la situation globale. La solution immédiate serait de ne plus aller dans le Massif central. Mais alors, on n'aurait pas ces belles montagnes, ces belles images. Et c'est aussi quelque chose, il faut le savoir, que le Tour de France revendique toujours. On visite aussi les régions sinistrées de France pour essayer de les dynamiser sur le plan touristique. C'est aussi une ligne directrice du Tour de France.
Super, merci. Ralph, on te remercie tous les jours de nous donner cette vue d'ensemble avec des choses qu'on ne peut évidemment pas savoir et pour les bonnes pistes que tu nous as encore présentées aujourd'hui. Bon, on reporte le sujet de fond à demain. Regardons la journée de mercredi. Le départ est à 13h50. L'arrivée est prévue vers 17h30. On va de Vichy à Nevers. 161 km à parcourir, deux côtes de quatrième catégorie, sinon ce sera plat. Les sprinteurs n'ont de toute façon plus beaucoup d'occasions. Il y en a de moins en moins, mais demain pourrait être une journée pour eux. Tu le sens comment?
Quand on regarde le profil de l'étape, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le seul truc qui peut poser problème sur ces étapes soi-disant plates, c'est le vent, la météo, mais pour l'instant, ça se présente plutôt bien, donc je parie sur un sprint demain. Les leaders du général comme Florian, Remco et tous les autres qui se livrent un duel quotidien pour le top 10. Ils seront bien contents si la course est un peu plus calme pour eux demain.
Ils ont bien mérité leur pause aujourd'hui. Nous deux, on ne fait pas de pause demain, entre guillemets, bien sûr. Il y aura quand même de la course sur le Tour de France, mais ça devrait être plus calme. Donc, pas de pause pour nous deux demain, puisqu'on se retrouve, comme d'habitude, après l'étape. Je dis bravo, félicitations pour cette belle course aujourd'hui de la part de Red Bull Bora Hansgrohe aussi. Et merci pour cet échange, cher Ralph.
Avec plaisir, bonne soirée et passez le bonjour à Rosenheim.
C'était le dernier numéro d'Inside Red Bull Bora Hansgrohe, le podcast OVB Online sur le Tour de France. Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les plateformes habituelles et sur les sites d'OVB Média et IPN Média. Merci pour votre écoute et à la prochaine.